Merci, disais-je, pour votre présence à tous en ce magnifique Centre européen de la jeunesse pour fêter le centenaire de Pan-Europe à l'initiative de l'Union pan-européenne de France. Merci à son président Éric Campion, auquel nous devons cette belle organisation. Merci enfin à tous les participants qui composent cette table ronde numéro 1, qui ont accepté de nous éclairer de leur expérience et de leur expertise sur le thème passionnant et fondamental des valeurs de l'Europe, thème qui va nous occuper pendant environ 1h30. Ce temps est très court au regard de l'ampleur du sujet et je vous serai reconnaissant à chacun d'entre vous de bien vouloir limiter autant que faire se peut vos interventions, de sorte que chacun puisse prendre la parole d'une façon équitable. Je pense que l'équité est déjà une valeur de l'Europe. Notre sujet, les valeurs de l'Europe pour dynamiser le désir de vivre ensemble et de se reconnaître dans le besoin d'un destin partagé. C'est de cette manière, Monsieur le Président, que vous avez énoncé notre sujet. Entre besoin et désir, voilà une expression sans doute un peu idéalisée, vraiment romanesque, du projet européen. On sait pourtant que l'appartenance à une géographie de proximité ne suffit pas à faire de nous des Européens. Car la vérité, nous ne sommes Européens que par le sentiment de l'être. L'Europe est moins un continent qu'une idée, nous le savons. Elle est un projet collectif qui est né non pas d'un abandon quelconque, mais au contraire d'un consentement de volonté de ses membres à se réunir autour d'un projet commun. C'est parce qu'elle est d'abord une idée que le sentiment d'être européen se construit dans l'élaboration d'un socle de valeurs communes. Car en l'absence de valeurs partagées, la communauté politique européenne ne peut prétendre pouvoir contribuer d'une façon active au rayonnement de l'Europe et à la résolution des projets du monde. Ce sont ces valeurs partagées, qui constituent la boussole sans laquelle le cap que constituent les objectifs de l'Europe ne saurait être réalisé. Nous allons donc tenter de définir, d'avancer sur une détermination, une définition, j'allais dire, des valeurs qui nous sont communes et qui constituent en quelque sorte les ingrédients nécessaires au développement du projet, au développement de cette idée européenne. Alors avant d'échanger avec nos intervenants, je vous propose tout d'abord d'écouter le message de Mme Zeljana Zovsko. Mme Zeljana Zovsko a enregistré ce message. C'est une femme politique, membre de l'Union démocratique croate et députée européenne. Écoutons-la.
Ladies and gentlemen, distinguished speakers and guests, it is my pleasure to greet you all at the annual conference of the International Pan-European Union. For the last 100 years, the Pan-European Union has helped as an advocate for European enlargement and sharing common values such as peace, freedom, justice and diversity. The European Union has grown to become a true reflection of these ideas and aspirations. As a member of European Parliament, I strive to ensure that our European values are respected and protected and that our citizens are safe. With this in mind, I'm particularly keen on advocating further enlargement and stability of our close neighbourhood, as well as improving the role of European Union in preventive diplomacy. Croatia now has a role to protect EU borders, as only a stable neighbourhood can guarantee safety to our citizens. As the longest-running peace project in history, the European Union has shown great determination, solidarity and unity in battling the challenges we have faced in the last few years. The world we knew yesterday is rapidly changing. The pandemic and the ongoing war in Ukraine taught us how complex it is to protect our citizens and preserve peace. Croatia has also learned this lesson in a hard way. This year, we will celebrate the 32nd anniversary of our statehood and the 10th anniversary of Croatian membership in the European Union. This year, we became a part of a Schengen structures and also Euro. And by becoming that, we became one of the 15 countries who are fully integrated in all EU structures. Croatia plays an important role in EU security, stability and peace, and it is the biggest advocate of the European integration of all our partners in the Western Balkans. If we want to become a leading global actor, we need to put aside individual interests and work together within in the EU and with our partners to promote shared European values and strengthen, improve and protect our European way of life and our union for future generations. I wish you all a successful conference. Thank you.
Nous remercions Madame Zovko et je voudrais m'adresser maintenant à Monsieur Barišić, Pavo Barišić, philosophe, homme politique, croate. Vous avez été ministre des sciences et d'éducation. Vous êtes professeur titulaire aux universités de Split et de Zagreb. Et vous êtes président de l'Union pan-européenne croate. Monsieur Barišić, la richesse culturelle immense de notre continent, bien illustrée par la devise que nous avons rappelée tout à l'heure de l'Union européenne unie dans la diversité, me conduit à vous poser une première question. La réalité de cette grande diversité qui est culturelle, qui est économique et qui est politique, et l'ambition de son unité, diversité et ambition de l'unité, qu'est-ce qui fonde l'Europe, donc, au-delà de ces différences et de cette apparente contradiction? Quelles sont les valeurs fondatrices de l'Europe, selon vous?
Merci. Et d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs pour cette magnifique réunion à l'occasion des jubilés de l'Union pan-européenne. Il est significatif que notre conférence commence par une discussion sur les valeurs européennes. Dans l'annonce du premier panel, il a été souligné qu'ils sont le ciment de l'Europe. Donc, je voudrais me concentrer sur trois ensembles thématique. D'abord, c'est le développement de cette valeur européenne dans les actes normatifs. Il y a une question que je voudrais poser, c'est le danger des batailles idéologiques qui peuvent être enflammées par les débats sur les valeurs. Et je voudrais rappeler la formule pour surmonter les conflits idéologiques pour construire une unité européenne. La formation du programme pan-européen il y a un siècle reposait sur la conviction que dans le cœur des citoyens européens, il y a des idées et des idéaux qui mènent nécessairement à la paix et à l'unité. Mais le processus institutionnel d'intégration européenne depuis les années 50 du XXe siècle s'est déroulé avec prudence, principalement en termes de coopération économique, de commerce et d'échange de marchandises. Par conséquent, le catalogue des valeurs n'est entré dans les actes normatifs de l'Union européenne que récemment, au troisième millénaire. Il apparaît d'abord dans le préambule de la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne de 2000. Quatre valeurs fondamentales sont mises en avant. La dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité. Dans l'article 2 du traité de Lisbonne de 2007, le catalogue a été étendu à 7. La démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme ont été ajoutés à ce qui précède. Des valeurs fondamentales marquées comme ce qui lie substantiellement les États membres. Elles sont la base des valeurs pour construire une société européenne selon les caractéristiques de pluralisme, non-discrimination, tolérance, justice, solidarité et égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, les valeurs européennes ne sont pas de simples formulations faites dans des actes normatifs. Ils ont été créés pendant des siècles et sont entrés dans la réglementation par le pouvoir des croyances et des pratiques des citoyens européens. Leur existence a été signalée et prônée par le mouvement pan-européen depuis sa fondation. Ils reconnaissaient en eux le rôle des fondements spirituels et des liens culturels de la communauté économique, politique et juridique de l'Europe. En soutien, je me référais aux réflexions du célèbre juriste et philosophe français Alexis de Tocqueville, dans son traité inégalé sur la démocratie en Amérique. Il était fasciné par les réalisations de la liberté et de l'égalité dans le processus démocratique de l'unification des États américains. Il a prouvé que la liberté ne peut être garantie seulement par des moyens institutionnels. La communauté démocratique est pratiquement façonnée et consolidée sur les croyances, les sentiments et les opinions des citoyens. Leur système de valeurs est la base de la Constitution. Il a excusé une échelle des principales causes de la démocratie avec les valeurs au sommet. Le premier niveau comprend les conditions naturelles et la situation géographique. Ci-dessus, le cadre juridique qui garantit l'ordre institutionnel. Le plus important sont les coutumes, les habitudes et la morale. Ils sont le véritable gage de la liberté dans une société démocratique. Ils ont un rôle plus important que les lois et les institutions étatiques elles-mêmes. La religion est l'une des sources de valeurs les plus puissantes. Elle a un rôle stabilisateur dans la société. En utilisant l'exemple américain, il a décrit comment les valeurs du christianisme ont fusionné avec succès avec les principes démocratiques. L'idée de création divine et le commandement d'aimer son prochain prend l'égalité des peuples et influence sur la liberté politique. Il considérait donc la religion chrétienne comme une source de valeurs contraignantes pour l'Europe également. Les valeurs sont ainsi confirmées comme un sémant ou mastic transcendantal, introductif qui solidifie le son de la vie civique. Le but de relier les membres qui partagent des idées et des idéaux proches dans une société démocratique émerge d'opinions et de croyances harmonisées et en des valeurs communes. Mais il y a les problèmes avec les querelles idéologiques, mais je peux en discussion...
Dans le cours de la discussion. Oui, absolument. Alors, Alors, je dois déjà présenter de premières excuses pour une erreur commise sur les qualités des uns et des autres. Donc, le professeur Barišić est secrétaire général de l'Union paneuropéenne internationale, tandis que c'est monsieur Mislav Jozić qui est à ma droite.
Jezić,
qui est à ma droite, qui est lui président de Paneurope Croatie. Président d'honneur de Paneurope Croatie.
Maintenant, monsieur Barišić est aussi président de l'Union Paneurope.
Alors écoutez, écoutez, voilà le fautif. Parce que.
C'est changé.
Voilà. Mes fiches étaient à jour. Président, merci de me dédouaner. Donc nous étions. Alors, on va profiter de se tourner vers monsieur Jezić, qui est philosophe, qui est dans une spécialité qui est l'indologie, et qui est professeur également de philologie et de philosophie indienne. Donc, il s'est intéressé aux sociétés antiques indiennes, qui a fait des liens que j'ai découverts avec la culture grecque, et qui s'est interrogé, en somme, sur les origines en termes de civilisation de l'Europe. Alors, tout ça est extrêmement savant pour moi, en tout cas, peut-être pour vous aussi. Je souhaiterais, monsieur Jezić, que vous vous exprimiez sur cette question des origines culturelles et de civilisation de l'Europe.
Mesdames et messieurs, j'essaierai de donner une image aussi simple que possible des valeurs fondamentales de l'Europe. Bien sûr, une valeur très importante dans l'Europe, c'est la diversité des cultures nationales et régionales, bien sûr. Mais de l'autre côté, il y a aussi une culture commune, et dans l'Union paneuropéenne, nous le formulons d'habitude comme la sagesse grecque, le droit romain et la foi chrétienne, comme les fondements communs de la culture européenne. Bien sûr, on pourrait parler des valeurs communes aussi, d'énumérer les valeurs communes comme la dignité de l'homme ou les droits de l'homme, la démocratie et le règne de la loi. On pourrait dire que même dans ces exemples, l'idée de la dignité de l'homme ou des droits de l'homme est d'origine chrétienne. Que, bien sûr, la démocratie est d'origine grecque, surtout d'Athènes, et l'idée du règne des lois peut être aussi d'origine grecque, mais surtout d'origine romaine. Et c'est pourquoi, quand on étudie le droit, on a toujours un sujet qui s'appelle le droit romain.
Absolument.
Oui. On pourrait dire c'est les valeurs qu'il faut vivre si on veut être un Européen. Quelquefois, il faut même se sacrifier pour ces valeurs, lutter pour ces valeurs, comme on le fait maintenant en Ukraine. Nous le comprenons très bien parce que c'est justement ce que nous devions faire il y a 30 années, 20 années en Croatie. Alors, nous sentons vraiment ce qui se passe maintenant en Ukraine. Et je dirais, c'est là où on défend aujourd'hui des valeurs européennes. Parmi ces valeurs, nous pouvons citer aussi subsidiarité et solidarité qui sont citées dans le contrat de Maastricht, mais qui sont d'origine de la doctrine sociale de l'Église catholique, mais ils sont mentionnés et on se réfère à la subsidiarité et solidarité dans le contrat de Maastricht. Alors, dans les documents fondamentaux de l'Union européenne. Si on regarde, de nouveau, je m'excuse, je le simplifie, mais quand même quelquefois des idées, des notions simples aident à voir les choses clairement, j'espère. Nous avons hérité des Grecs une idée du vrai, du bien et du beau, qui est de nouveau au fondement de la culture européenne. On peut une vision du monde qui est fondée sur ce qui est vrai, sur ce qui est bien, sur ce qui est beau. On peut mettre en question toutes ces valeurs aujourd'hui, mais sans ces valeurs, je dirais qu'il n'y a pas de culture européenne. Bien sûr, c'est compliqué, mais mettre en question, laissons maintenant les questions à part. On pourrait dire que ces idéaux du vrai, du bien et du beau se réalisent dans notre culture, l'idéal du vrai dans la philosophie, dans les sciences naturelles et humanistes, où on cherche ce qui est vrai. C'est de nouveau questionnable parce que on peut dire dans les sciences depuis le XVIIe siècle au moins, on cherche souvent ce qui est utile, ce qui est profitable. Mais comment, si la science cesse à chercher ce qui est vrai, ce n'est plus la science, c'est une autre activité, disons. Hein? De l'autre côté, on cherche ce qui est bien, bien sûr, dans l'éthique, et l'éthique européenne est une éthique humaniste. Elle est une discipline très importante, très sérieuse, mais si on peut lui rapprocher quelque chose, c'est qu'elle est peut-être trop anthropocentrique, parce que avec l'éthique que nous avions jusqu'au temps moderne, nous avons mis en danger notre environ, la nature, la survie dans le monde où nous vivons. Et peut-être c'est pourquoi il y a des penseurs européens qui ont, au commencement du XXe siècle, promu une éthique biocentrique, une bioéthique. Parmi les autres, je peux mentionner Albert Schweitzer, qui est connu à tout le monde, je crois, et le père de la bioéthique en Europe, Fritz Jahr, qui essayait de reformuler l'impératif catégorique de Kant en le suivant, mais de le reformuler en disant Betrachte jedes Lebewesen als seinen Zweck an sich und behandle soweit es möglich als solchen. Also, regarde chaque être vivant comme un but en soi et comporte-toi envers cet être autant que possible dans cette perspective, comme vers un but en soi. Cette bioéthique est aujourd'hui plus présente aussi dans les encycliques des papes, déjà dans les écrits de Jean-Paul II et maintenant de Pape François, surtout dans l'encyclique Laudato si. Et on pourrait dire que c'est un exemple où on respecte les valeurs européennes traditionnelles, mais on les élargit. Alors, le danger pour les valeurs européennes, ce n'est pas dans l'élargissement. Dans ce sens, on pourrait dire, je le mentionnerai seulement, je ne l'élaborerai pas, certaines de ces valeurs de la bioéthique étaient beaucoup plus présentes dans certaines autres cultures, surtout en Inde, qu'en Europe. Albert Schweitzer en écrit, par exemple. Mais il est temps d'élargir nos valeurs dans ce sens, vers la bioéthique et vers une culture de la vie, hein, et pas une culture de la mort et de la destruction. Ce qui est dangereux pour les valeurs de l'Europe, ce n'est pas de les élargir, c'est de les abandonner. Ce que nous ne devons jamais faire, c'est d'abandonner nos valeurs européennes. Mais ce que nous pouvons toujours faire, c'est de les élargir et même d'apprendre des autres ce que nous pouvons apprendre. On pourrait dire, pour peut-être beaucoup de gens, l'Union européenne, on comprend l'Union européenne comme une communauté économique, communauté des intérêts, etc. Mais l'Union européenne ne peut être seulement l'unité des, une communauté des intérêts, une communauté seulement économique. Elle l'est, mais pas seulement cela. Elle doit être une communauté politique et une communauté culturelle. Peut-être, je dirais quelque chose, je parle, une petite note, je parle de la culture comme de l'ensemble des valeurs de l'Europe, et je ne parle pas de la manière de vivre, je ne parle pas de way of life, parce que je me demande qu'est-ce qui est way of life, notre way of life, notre manière de vivre, c'est peut-être consumérisme, ce n'est pas une des valeurs fondamentales de l'Europe. Notre manière de vivre, c'est peut-être d'entendre l'Eurosong. Dans le Eurosong, il n'y a rien d'européen plus. Alors, ce que je pense, c'est pourquoi je ne parle pas de défendre notre manière de vivre. Il serait quelquefois très bien si nous le changeons. Mais de défendre notre culture et nos valeurs fondamentales. On pourrait dire une communauté des intérêts. On pourrait la créer avec des pays d'aucun part du monde. Pourquoi plutôt avec Autriche ou Portugal et pas avec Singapour ou Nigeria où il y a beaucoup de pétrole, etc. Alors, s'il s'agit seulement des intérêts, il n'y a pas de raison d'avoir une Union européenne. On peut imaginer des communautés, des unions économiques qu'on peut faire entre des pays très différents et des pays qui ne doivent même pas partager les mêmes valeurs. Mais alors je dirais, pour le succès économique, peut-être, la culture et les valeurs européennes ne sont pas décisives. Mais il est absolument impossible d'avoir une communauté européenne, une union européenne sans les valeurs européennes. Alors, on peut avoir d'autres communautés, communauté d'autres genres, mais si on le regarde seulement comme une communauté économique, communauté des intérêts, ce n'est pas l'Union européenne. Si on veut avoir l'Union européenne, est possible seulement si nous préservons et développons, élargissons, si, dans les cas quand c'est nécessaire, les valeurs européennes. C'est une communauté fondée sur les valeurs. Et c'est le message que je voulais transmettre. Merci.
Merci, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Je ne vais pas vous relancer parce que vous avez brillamment employé le temps qui vous était imparti, mais ces racines indiennes que j'ai perçues dans vos travaux me laisseront un peu sur ma faim. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure.
Oui, hein, bien
pour
sûr.
Que tout le monde puisse s'éteindre. Je me tourne maintenant vers M. Bernd Posselt, qui est un homme politique allemand, important, membre ancien, membre du Parlement, qui a été membre du Parlement européen jusqu'en 2014, je crois, qui est représentant.
Non. Pour 20 ans.
Oui.
Mais maintenant, non, mais peut-être.
Pendant une vingtaine d'années. Oui. Vous êtes président de la Pan-Europea Union Deutschland, la branche allemande de l'Union Pan-Européenne Internationale. Je ne fais pas d'erreur, président? Merci bien. Monsieur Posselt, l'Europe, et on parle de culture, de démocratie, on parle de liberté fondamentale, on identifie que tout cela provient effectivement d'une culture à la fois grecque, romaine et chrétienne. Néanmoins, l'Europe est actuellement bousculée par l'émergence du populisme et d'un certain réflexe national que l'on voit se développer ici ou là. L'Europe est également bousculée par la critique post-coloniale des autres pays qui identifient dans cette recherche d'universalisme quelque chose qui s'apparenterait à une sorte d'impérialisme occidental. Et peut-être jusqu'à un sentiment de domination. Est-ce que les valeurs que nous partageons entre Européens sont menacées dans un contexte géopolitique de plus en plus instable?
Thank you very much. I agree in the most points, my friends Mislav and Pavo. That's not a surprise. I have written some books about the base of the European idea, of the basics of the European idea. But if you allow, I would like to start with a personal statement, very personal statement. The pan-European movement became 100 years old in the last year. And I started to become pan-European with 16 years in the year 1972. In this time, we celebrated 50 years of the Pan-European Union. So 100 years, Pan-European movement is 50 years of my life, the half. And why did I become Pan-European? This has to do with the history of my family. It's very similar to Kudenhove Kalergi, the founder of our movement. My grandfather lived in a German city in the north of Bohemia, which is now the Czech Republic. When he was young, he was an Austrian citizen. Then he was an Austrian soldier of the Habsburg army, the First World War. Then he was Czechoslovak. Nobody had asked him if he wants to be it or not. Then he was German. In the Nazi time, nobody has asked him if he wants this or not. So the two-thirds of his life were with three different citizenships, two languages, German and Czech, as mother tongues, both, And this was not a special situation. This was a situation of millions of people who lived in this smaller Europe, which the Austrian monarchy was. And after the Second World War, because he did never change his city, he changed only the state to which he belonged. And after the Second World War, he was kicked out together with his family and with my father. And I'm the first from my apostle family in 800 years who is born in Germany. We did speak German, but nobody in our family was a German. On the other hand, my mother comes from the south of Styria, which is now Slovenia. Her family spoke German, Slovene, and she had forefathers from Hungary, from Croatia, and from Slovenia.